François Lebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Lebrun, vous êtes professeur affilié à Sciences Po Paris en ce dernier jour de l'année 2025. Merci tout d'abord d'être avec nous. Nous allons revenir sur deux informations qui ont marqué l'actualité. Alors concernant Israël, tout d'abord, l'année 2025 est marquée par le plan de Donald Trump pour la bande de Gaza. Le 9 octobre dernier, Donald Trump annonce qu'Israël et le Hamas acceptent la première phase de son plan de paix. Le président américain a laissé tomber sa vision grandiloquente de Revira pour la bande de Gaza. Son plan en 20 points prévoit un cessez-le-feu immédiat, un échange d'otages contre des prisonniers palestiniens, le retour de l'aide humanitaire, le retrait progressif de l'armée israélienne et l'arrivée immédiate d'une force internationale. La trêve permet le retour rapide en Israël des derniers otages vivants et de la plupart des dépouilles décédées. Il ne reste aujourd'hui que Ran Gvili, otage israélien décédé, toujours retenu dans la bande de Gaza. En 2025, Israël a mené d'autres batailles à ses frontières, tout d'abord à sa frontière nord, au Liban. La tension y reste permanente, pourtant l'armée israélienne avait sérieusement affaibli en 2024 la principale menace que représentait le Hezbollah. Son chef, Hassan Nasrallah, a été tué dans une frappe. Le Hezbollah a même accepté un cessez-le-feu. Et derrière l'affaiblissement du Hezbollah libanais, c'est tout le dispositif construit par l'Iran contre Israël qui est désorganisé. C'est ce que Téhéran appelait l'axe de la résistance, mais l'Iran lui-même est frappé le 13 juin 2025. Les habitants de Téhéran et d'autres villes iraniennes sont réveillés par des explosions. Israël mène une attaque sans précédent contre les sites nucléaires, des fabriques de missiles et la défense anti-aérienne. Immédiatement, le guide suprême Ali Khamenei menace et l'Iran a riposté en lançant des drones et des missiles contre Israël dans la foulée.
Tout à fait, Pierre. Vous avez parfaitement résumé cette année 2025 pour Israël. Israël qui était engagé depuis le 7 octobre 2023 sur une guerre où trop souvent dans les médias français on a focalisé l'attention sur Gaza, Gaza, rien que Gaza. Mais en fait, Israël devait mener une guerre sur 7 fronts. Vous en avez rappelé les principaux, donc évidemment Gaza, mais il y avait aussi le front de la Cisjordanie, le front du Liban que vous avez évoqué, le front syrien, on va y revenir, le front iranien, mais aussi le front irakien, et enfin le front yéménite avec les Houthis au Yémen. Et ce qu'on peut tirer comme bilan, puisque c'est un peu l'objet de cette discussion à quelques heures du réveillon et du passage de la nouvelle année 2026, c'est quel est le bilan militaire stratégique pour Israël. En fait, le bilan est bon. Israël, une fois de plus, a montré son sang-froid, sa supériorité militaire, sa supériorité technologique, mais surtout sa supériorité stratégique sur le terrain, face à des ennemis pluriformes, déterminés, très bien organisés, mais qui ont montré aussi leurs limites. Et Israël, on peut le dire, a gagné la bataille sur les 7 fronts. Comme vous l'avez rappelé, à partir du 9 octobre, et surtout à partir du 13 octobre, la mise en place de la trêve à Gaza, le Hamas a été contraint, après le lâchage de ses deux principaux alliés, la Turquie et le Qatar, de reconnaître sa défaite, de libérer les otages, qui étaient son principal levier de négociation. Et heureusement, les otages vivants ont pu être ramenés tous, et les otages décédés, la plupart, sauf un, mais qu'on espère retrouver à un moment donné. Donc c'est une victoire à Gaza, c'est une victoire aussi au Liban, puisque le Hezbollah n'est pas désarmé totalement, mais le Hezbollah a connu une défaite sanglante, à la fois politique, militaire, stratégique, et surtout, pour la première fois, le gouvernement libanais s'attache, même s'il n'a pas tous les moyens pour le faire, s'attache à désarmer progressivement le Hezbollah. En Syrie, c'était l'année dernière, mais cette année, il y a eu des changements majeurs. Quand il y a eu des tentatives syriennes d'attaquer les Druzes de la frontière, proche de la frontière israélienne, Israël est venu en défense des Druzes et a créé une zone tampon que le régime syrien n'ose plus maintenant attaquer. Et le régime syrien affaibli sait qu'il cherche plutôt à négocier un statu quo avec Israël et une ligne de front calme. Les outils au Yémen ont été décapités, leur direction militaire a été décapitée par plusieurs frappes israéliennes, et d'ailleurs Israël, il faut remercier Israël, puisqu'ils ont fait le travail de gendarmes du monde, puisque les outils menaçaient tout le trafic maritime pétrolier dans le golfe Persique. Et donc Israël a fait un travail extraordinaire et les Houthis ne sont plus vraiment une menace aujourd'hui. Et enfin, la guerre contre l'Iran, la guerre de ces 12 jours au mois de juin, une guerre terrible, où les Iraniens n'ont pas hésité à frapper à plusieurs reprises le territoire israélien, mais Israël, avec l'aide des États-Unis, a pu neutraliser apparemment la plupart de la menace nucléaire iranienne. Donc, sur ces sept fronts militaires et stratégiques, Israël a remporté des victoires déterminantes qui le mettent aujourd'hui en position de force au Proche-Orient, vraiment en position de force. Mais comme toujours, Israël est très fort dans les victoires militaires et parfois pas forcément très forte dans les victoires politiques et diplomatiques. Et maintenant, tout l'enjeu aujourd'hui, et on le voit avec les dernières initiatives et rencontres entre Trump et Netanyahou, c'est de transformer ces victoires militaires en victoires politiques et diplomatiques, en renforçant les accords d'Abraham, en faisant venir à la table de négociation et de coopération plus active l'Arabie saoudite et d'autres pays arabes et musulmans de la région. Et ça permettrait de renforcer et enfin sortir Israël de certains conflits et peut-être apporter un peu de paix à cette région qui en a bien besoin et qui le mérite tant.
Autre sujet dont nous allons parler avec vous, la situation des Juifs français. De janvier à fin octobre 2025, il y a eu 1163 actes antisémites en France, selon le ministère de l'Intérieur. Ce chiffre est en baisse de 15% par rapport à la même période en 2024. La communauté juive est la communauté envers laquelle il existe le plus d'actes anti-religieux, c'est ce que précise la place Beauvau. Depuis les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023, les actes antisémites ont connu une hausse exponentielle, c'est ce qu'affirme sur son site la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA. Dans le même temps, l'immigration juive, l'Alia, depuis la France vers Israël, a connu une très importante progression en 2025, atteignant un niveau inédit depuis près de 10 ans. Selon le ministère israélien de l'immigration et de l'intégration, plus de 3300 juifs français ont fait leur Alia cette année, contre 2228 en 2024, soit une augmentation de plus de 45%. Cette évolution marque un tournant alors que l'alia des Juifs français stagnait depuis plusieurs années autour de 2500 départs annuels.
Tout à fait, Pierre. C'est une année, encore une année noire pour les Français juifs, en proie à des attaques physiques violentes, ce sont les pires, qui agressent principalement nos jeunes, qui agressent principalement les juifs visibles dans l'espace public. On l'a vu avec de nombreuses agressions de rabbins à Paris, à Neuilly, à Deauville, à Orléans, des agressions physiques très très violentes, insupportables. On l'a vu aussi avec d'autres formes d'antisémitisme dangereux, violent, comme cette nounou qui a essayé d'empoisonner la famille juive qui l'employait, y compris les enfants, avec des formes d'insultes et de visibilité de l'insulte publique antisémite dans le débat public, qui vont même jusqu'à l'Assemblée nationale avec des députés de la France insoumise, dans leur obsession névrotique de leur passion anti-israélienne qui dérape vers des formes d'antisémitisme plus ou moins larvées, qui sont insupportables, une libération de la parole antisémite un peu partout, et qui fait qu'effectivement, beaucoup de Français juifs se sentent à la fois menacés physiquement, ont peur pour l'avenir de leurs enfants en France, dans ce pays, et sont tentés par l'Alia. Alors, moi, je suis un fervent militant sioniste, je suis un fervent militant de l'Alia, mais pour moi, l'Alia doit toujours être positive, c'est-à-dire qu'on doit vouloir aller vivre en Israël avec un projet, un idéal, une envie de participer à la construction et à l'avenir d'Israël. Mais partir de France, puisqu'on a été victime d'actes antisémites, c'est une défaite de la France, c'est une faillite de la France républicaine, c'est une faillite de la promesse républicaine faite aux Juifs depuis 1791, que les Français juifs sont libres et égaux en droit, et qu'ils ont le droit à la sécurité et à la sécurité de la part des institutions. Alors les institutions tiennent, les pouvoirs publics tiennent. Il faut le dire. Il faut dire aussi que la majorité de l'opinion française tient, puisque 71% des Français rejettent la montée de l'antisémitisme en France, sont inquiets de la montée de l'antisémitisme en France, pour deux raisons. La première, c'est qu'ils comprennent que c'est une fracture du pacte républicain. Et une deuxième, c'est qu'aussi c'est une menace pour la France, au-delà des Français juifs, c'est une menace pour la France. Et donc, il faut que les Français juifs aussi essaient, et c'est vraiment moi un message que j'essaie de lancer, essaient de construire pour eux, pour leurs enfants, un avenir possible en France. Alors, au pouvoir public, à la justice de nous aider. Et puis, il faut évidemment un certain nombre de mesures, et le CRIF y travaille, avec l'aide des pouvoirs publics, un certain nombre de mesures dans l'espace public, dans l'espace médiatique, dans l'espace politique, pour que les discours de haine, les discours d'exclusion contre les Juifs, soient amoindris. Et je vois quand même certains signaux positifs en cette fin d'année. Certains signaux positifs. La première, c'est que la police française, les services de sécurité français font un travail assez remarquable pour freiner et empêcher toute attaque terroriste contre les Français juifs. La France, où les Juifs ont payé un très lourd tribut à la haine antisémite depuis 25 ans, puisque 12 de nos compatriotes juifs ont été assassinés par des fanatiques islamistes. Eh bien, cette année, il n'y a pas eu d'attentat, il n'y a pas eu d'attentat meurtrier en France, contrairement à l'Angleterre avec l'attentat de Manchester, Washington, aux États-Unis avec l'attentat de Washington, et puis plus récemment, cet attentat absolument terrible de Sydney en Australie, où 15 juifs ont été assassinés par deux islamistes radicalisés. Eh bien, nos services tiennent. C'est pas que la menace a baissé, c'est que nos services tiennent, et ça, c'est une bonne chose. La deuxième, c'est important, c'est que dans le débat public, un certain nombre d'hommes et de femmes politiques courageux se rendent compte que les excès de LFI notamment, mais pas que, de certains écologistes, même de certains socialistes, dans leur fascination morbide contre Israël, c'est un discours insupportable qui entretient le climat antisémite en France, et de plus en plus de voix s'élèvent contre cela, de députés courageux, de responsabilités courageuses. Et par exemple, à titre d'exemple, Isabelle Rome, l'ambassadeur de France pour les droits de l'homme et qui vient d'être nommé responsable pour l'OCDE de la lutte contre l'antisémitisme dans le monde, a déclaré que déclarer libérer la Palestine du fleuve à la mer est une parole antisémite. Pour nous, c'est évident, mais c'était important qu'on le dise. Et ce type de discours, et même de dire qu'il y a un génocide à Gaza, est quelque chose qui criminalise les Juifs à tort. Et donc, il y a une montée d'un discours plus rationnel, plus apaisé, de la majorité des Français qui en ont assez, en fait, de la polarisation, de la radicalisation. Et nous pouvons espérer qu'en 2026, comme souvent dans l'histoire de l'antisémitisme, il y a des pics, il y a des vagues, et puis il y a des reflux, il y a des ressacs, il y a des marées basses, des marées descendantes. Mais on peut espérer qu'en 2026, la marée qui a été montante depuis 2 ans et quelques mois de l'antisémitisme en France, ce sera une marée descendante et que tous nos compatriotes juifs retrouveront une vie plus apaisée, plus tranquille, plus sereine dans notre pays. Et en tous les cas, c'est tout ce que je leur souhaite pour cette année 2026. C'est une France plus solidaire, plus sereine, et le recul de l'antisémitisme en sera un des signes annonciateurs.
François Heilbronn, professeur affilié à Sciences Po, merci d'avoir été avec nous en ce dernier jour de l'année 2025 et tous nos voeux pour la nouvelle année qui démarre dans quelques heures.
Tous mes voeux, cher Pierre, à vous, à votre excellente radio, Radio Shalom, qui a su, dans ces crises, continuer à informer avec lucidité, sérénité. Vous-même, comme Bernard Aboaf, ce sont des journaux de très grande qualité. Je vous adresse toutes mes félicitations et je suis encore très heureux de continuer à vous entendre pendant toute l'année 2026. Et puis, très, très, très bonne année à toutes vos auditrices et vos auditeurs.